Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour à tous et à toutes et merci d'être encore à l'écoute sur Canal Académie pour entendre parler de l'État bourguignon. Nous retrouvons Philippe Contamine, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, historien médiéviste, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Bertrand Schnerb, spécialiste de la société et des institutions bourguignonnes des 14e et 15e siècles, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Lille 3, auteur de « L'État bourguignon », 1363-1477, nous parle de la culture de cour du prince fastueux Philippe le Bon, grand-duc d'Occident, de la Toison d'Or, mais aussi de tout cet art de vivre et de ce mécénat dont il a été capable, qui nous reste encore en partie, en tout cas dans ces pays du Nord, plus que dans ces pays de Bourgogne. Messieurs, bonjour.
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 Alors, qu'est-ce qu'on appelle, Philippe Contamine, qu'est-ce qu'on appelle la culture de cour ?
La culture de cour, donc, c'est une formule qui s'applique pas uniquement à l'époque de Philippe le Bon, mais c'est une formule qui s'applique à différentes époques, à partir du moment où il y a, je crois, quand même un pouvoir personnel. Il faut qu'il y ait un pouvoir personnel. C'est plus difficile de concevoir une culture de cour dans les cantons suisses, si vous voulez. Bon, c'est autre chose. Dans les républiques, même encore qu'il y ait Florence. Mais justement, à partir du moment où Florence, à l'époque de Laurent le Médicis, Laurent le Magnifique, s'incarne dans un personnage. Donc moi, à mon avis, la culture de cour, il faut qu'il y ait un personnage. Il faut qu'il y ait un personnage qui soit disposé à animer cette culture de cour parce que ça n'est pas automatique. Il y a toujours une cour, c'est vrai. Même Louis XI, qui n'était pas porté vers ce genre d'action, avait sa propre cour. Les gens de l'époque parlaient de la cour de Louis XI comme de la cour de Charles VII. Mais la culture de cour, ça va plus loin. C'est-à-dire qu'il faut un personnage qui soit disposé à réunir autour de sa personne un certain nombre de manifestations artistiques, littéraires, culturelles précisément, qui sont là un peu pour le mettre en valeur et pour valoriser son action. Je crois qu'il y a dans la culture de cour cette idée que la culture de cour ne peut pas être enfermée en elle-même, mais servir de phare, servir de référence, non seulement à l'intérieur, mais encore à l'extérieur. Il s'agit, disons, d'assurer, de développer la renommée du prince qui l'anime et qui doit nécessairement, c'est son rôle, y consacrer un certain nombre de moyens matériels.
Donc c'est un atout politique.
Oui, un prince comme Philippe le Bon, d'abord il est héritier d'une tradition de cour. Le prince est entouré d'une cour, il ne faut pas oublier que c'est un Valois, et que déjà la famille royale, les rois Valois ont développé la cour, et il est vrai que les ducs de Bourgogne, puis Philippe le Hardi, Jean sans Peur et Philippe le Bon, ont fait un effort particulier pour faire de la cour un instrument politique, pour que ce soit une sorte de vitrine, pour que le spectacle de la cour, sa richesse,
sa théâtralisation
aussi, en impose. Alors, en impose à qui ? Bien, d'abord, le spectacle du faste, le spectacle de la richesse de la cour, c'est un message délivré en direction des partisans du prince, de ses fidèles. Voyez comme votre prince est riche, comme votre prince est puissant. Voyez quel faste il peut déployer. C'est aussi, éventuellement, un message déployé en direction des ambassadeurs, des représentants des puissances étrangères qui vont voir la cour. Il faut les émerveiller. Et bon, parfois, certains sont difficiles à émerveiller parce qu'ils ont chez eux de belles choses. Donc, il faut aller plus loin, si vous faites de la surenchère, pour qu'une fois rentrés chez eux, eh bien, ces étrangers disent « Nous avons vu la cour de Bourgogne, eh bien, c'est un spectacle magnifique. » Et puis, c'est aussi une manière, si vous voulez, d'intimider les adversaires. Si le prince est capable de dépenser autant pour simplement sa vie de cour, que peut-il dépenser s'il veut nous faire la guerre ? Vous comprenez ? Ce sont des messages qui sont finalement destinés à tous. Le prince doit aussi se mettre en scène, comme vous l'avez dit, se mettre en scène. Il doit se mettre en scène avec des gens qui sont ceux qui le soutiennent. On met en scène les soutiens du prince. Alors,
ça
sa noblesse,
la toison d'or.
C'est la toison d'or à l'époque de Philippe le Bon, fait partie évidemment intégrante de ce spectacle de la cour. Ce n'est pas le seul élément. Mais il est évident que dans la toison d'or, le duc présente là l'élite nobiliaire, l'élite aristocratique sur laquelle il appuie une partie de son pouvoir. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi eh bien, les gens, j'allais dire, de robe longue, les conseillers juristes, qui peuvent aussi avoir leur rôle à jouer dans le spectacle de la cour, les ecclésiastiques, qui forment une partie du conseil du prince, les juristes, bon, évidemment, quand on parle de Philippe le Bon, il faut penser à un personnage qui a attaché aussi son nom au principat de Philippe le Bon, c'est le chancelier du
Nicolas Rollin.
Nicolas Rollin, qui pratiquement est chancelier de 1422 à 1462, même sur la fin de sa vie, il a été un petit peu disgracié. Mais disons que de 1422 à 1462, il porte le titre de chancelier du duc, pratiquement pendant la totalité du principat de Philippe le Bon. C'est un personnage qui a son rôle à jouer dans la cour et qui a lui-même développé une politique fastueuse pour se placer aussi comme un personnage qui est pratiquement d'un rang princier.
Je pense que ce phénomène de la cour est un phénomène qu'il faut, ils ont évalué sur la longue distance, sur la longue durée. Et donc nous sommes à une époque importante, il y en a eu d'autres, etc. Mais on peut dire que toute proportion gardée, indépendamment de l'aspect quantitatif, tous les éléments, tous les ingrédients qui ont fait la réputation de la cour de François Ier ou même de la cour de Louis XIV sont déjà en place sous le principat de Philippe le Bon, avec quand même des nuances. Nous ne sommes pas tout à fait dans le même ordre de grandeur quantitatif, ça je le crois. Il n'y a pas de Chambord bourguignon. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Versailles bourguignon. C'est une cour qui demeure assez itinérante. Donc c'est un élément assez important. Mais malgré tout, l'un dans l'autre, du point de vue littéraire, musical par exemple, les meilleurs musiciens sont pour la cour de Bourgogne. Des écrivains qui sont stipendiés, payés, des artistes, etc. Donc il y a tout un aspect que nous pouvons appeler, peut-être de façon un peu anachronique, le mécénat. Donc tous les éléments sont là. Les historiens modernistes ont tendance à penser qu'il n'y a pas de cour avant le XVIe siècle. Eh bien, il y a un contre-exemple qui est manifeste, c'est la cour de Bourgogne, notamment à l'époque de Philippe le Bon.
Alors, cette cour, elle, effectivement, elle s'organise en plusieurs éléments. Alors, M. Contamine parlait de la musique. Un des éléments extrêmement importants de cette vie de cour, c'est la chapelle. Il ne faut évidemment pas oublier la vie religieuse à la cour, qui est un des aspects, évidemment, de la vie spirituelle du prince, même son comportement dans le privé n'était pas parfaitement en conformité avec les enseignements de l'Église, il est évident qu'il y a une vie religieuse tout à fait ostentatoire à la cour et que la chapelle fait partie des éléments de faste. Le duc de Bourgogne prend un soin particulier au recrutement de ses musiciens, de ses chanteurs. On sait que Philippe le Bon faisait passer lui-même les auditions de ses chantres. Donc on voit le prince qui d'abord a l'oreille particulièrement exercée et qui est capable de faire passer des auditions et de sélectionner les chanteurs. Et on sait que justement les étrangers de passage à la cour sont émerveillés par l'ensemble musical, l'ensemble vocal de la chapelle. Il y a des compositeurs à la cour. Il y a aussi alors d'autres éléments, des éléments architecturaux, parce qu'effectivement il n'y a pas Versailles, mais il y a une politique de construction à Bruxelles par exemple, à Gand ou à Hesdin, alors qui est une résidence moins urbaine, bien que Hesdin soit une ville, qui est une résidence luxueuse avec ménagerie, avec parc d'attractions, avec le parc, n'est-ce pas, avec des automates, enfin des choses absolument magnifiques. On a beaucoup de détails sur la résidence de Hesdin. Il y a aussi le décor qui est d'abord, je dirais, celui des costumes, puisque il y a une politique du costume à la cour, une politique qui intègre un jeu de couleurs, d'ornements, d'emblèmes, utilisation des armoiries aussi. Tout ça fait évidemment d'éléments de luxe vestimentaire. Il y a l'écurie, les chevaux, qui doivent évidemment être magnifiques. L'écurie des ducs de Bourgogne représentait en termes financiers une dépense considérable dans l'année. Il y a le décor des résidences et même en fait déjà aussi le décor des camps militaires. Les camps militaires des ducs de Bourgogne sont luxueux. On n'est pas encore au camp du drap d'or, mais on sent très bien que même en guerre, même en déplacement, même vivant sur les champs, le duc déploie son faste. Donc tout cela fait partie d'un ensemble qui est vraiment non pas simplement, je dirais, le goût de l'ostentation gratuite, mais vraiment un élément d'une politique de prestige.
Il y a un terme qu'on n'a peut-être pas encore employé, c'est le terme de fête. Je crois qu'il y a des fêtes. Une cour se manifeste par un certain nombre de fêtes. Bon, il y en a des célèbres qui sont restés célèbres. Le vœu du faisan, par exemple, n'est-ce pas ? Les vœux du faisan. Mais il y en a d'autres. Donc, tous les mariages sont l'occasion de fêtes en particulier, n'est-ce pas ? Bon, plus les fêtes de la Toison d'Or.
De la Toison d'Or. À partir de 1430, les chapitres annuels de l'Ordre de la Toison d'Or constituent des fêtes qui sont d'ailleurs fort réglementées, normées.
Un rite.
Il y a un rite, effectivement, qui mêle, comme souvent dans la vie de cour, des éléments religieux et liturgiques et des éléments purement profanes. Et là, on peut dire que l'ordre de chevalerie que crée Philippe le Bon en 1430, cet ordre de la Toison d'Or, appelé un destin magnifique, cet ordre va faire partie vraiment du déploiement du faste de la cour. Mais ce n'est pas évidemment son seul rôle.
Mais c'est pourtant beaucoup de fierté de la part d'un homme qui n'est pas roi, d'instituer un ordre comme ça. Parce que le roi d'Angleterre en avait, oui, c'était la Jarretière, il y avait d'autres rois, mais lui, il a osé faire son propre ordre, qui était des chevaliers de l'Antiquité,
c'est vrai.
Qui n'étaient plus qu'à être fidèles avec, auprès
c'est vrai,
de lui.
Mais enfin, il y a beaucoup de princes à l'époque qui créent leur propre ordre, leur propre devise. Le problème, la réussite, c'est que cet ordre est devenu vraiment, d'abord il a duré, et puis dès le départ, il a été extrêmement réputé, finalement.
Oui,
c'est
mais
ça.
C'est ça la différence.
C'est ça la différence.
Mais
enfin, on peut
réputé.
Pas dire que ce soit uniquement des souverains qui puissent fonder un ordre. Il est, malgré tout, souverain de cet ordre.
Oui, il est souverain.
Il est souverain de cet ordre.
Il est le souverain de l'ordre.
Ce qui n'est pas insignifiant.
Parlons des cours en Occident et des cours des femmes. Philippe Contamine, les cours féminines, y en a-t-il en Occident ?
Eh bien, oui, oui, enfin des cours féminines, je ne sais pas trop. Il faudrait regarder un petit peu à l'époque d'Élisabeth Ière, peut-être il y avait une cour féminine au XVIe siècle en Angleterre. Mais je pense qu'une femme est quand même plus ou moins à l'époque sous le contrôle de son mari, ou bien elle est veuve. Et si elle est veuve, il est difficile pour elle d'avoir une véritable cour. Ou vraiment une cour très modeste, très humble, très pieuse. Non, ça ne pouvait pas marcher. Donc je crois qu'une cour s'organise autour des hommes. Après tout, il peut y avoir des cours sans femmes, ou en principe sans femmes, la cour du pape, n'est-ce pas, la cour du pape. Mais le propre de beaucoup de cours en Occident, dans une atmosphère de chrétienté, eh bien, c'est le rôle de la reine ou le rôle de la duchesse ou de la princesse qui n'est pas insignifiant. Et en particulier, il y a eu, à cette époque-là précisément, la rédaction des honneurs de la cour qui sont plus ou moins inspirés de la cour de France, mais enfin avec un relais bourguignon très fort. Et ces honneurs de la cour ont été rédigés par une femme pour des femmes.
Il faut des femmes à la cour parce que, d'abord, le prince, en principe, à des femmes autour de lui, femmes, épouses,
oui,
sœurs.
Nous parlerons tout à l'heure de la vie
oui,
privée de
oui,
Philippe
justement,
le Bon, qui n'est pas
ça,
très
c'est,
vertueuse.
C'est un aspect extrêmement important de la chose, c'est que les cours sont aussi le lieu d'une certaine vie sentimentale aussi, peut-être d'un certain érotisme de cours. Après tout, il est évident que les exploits des nobles en joute ou en tournoi doivent être des exploits qui doivent avoir pour témoin des femmes. On a un fameux parangon de la chevalerie bourguignonne, qui est Jacques de Lalain. Il est décrit par son biographe, dont on connaît malheureusement pas l'identité, il est décrit par son biographe comme un jour joutant sous les yeux des femmes, et le biographe dit, ah, toutes ces femmes se disaient, ah, si mon amant ou si mon mari était aussi beau, aussi vigoureux que lui, je serais bien heureuse. Donc il y a cet aspect qu'il ne faut pas négliger. Et le duc de Bourgogne donne l'exemple d'un homme qui est à la fois mari et père de famille, mais aussi d'un homme qui a une vie sentimentale assez bien remplie. Philippe le Bon est un homme qui, dans le cadre de sa cour, a eu de nombreuses aventures, et il est bien connu. C'était une tradition dans la famille de Bourgogne et dans la famille de Flandre, dont Philippe le Bon descendait. Il est bien connu pour avoir eu au moins 24 enfants illégitimes, 24 bâtards, connus, parce qu'il y a les autres, 24 bâtards qui étaient élevés à la cour et qui apparaissaient dans les fêtes de cour, qui apparaissaient dans la vie de cour, éventuellement même parfaitement admis par l'épouse légitime du prince.
Ça a fait penser à la cour d'Henri IV.
En un sens, absolument. Alors, je ne sais pas si, à l'époque de Philippe le Bon, il y a l'équivalent d'une maîtresse aussi importante que à la cour d'Édouard III avec Alice Perrers, qui a joué un certain rôle politique. Et il n'y a pas l'équivalent d'une Agnès Sorel.
Non.
Voilà,
non,
donc ce sont des femmes nombreuses, mais ce n'est pas des maîtresses comme on a eu à Pompadour ou bien la Montespan, etc. Nous sommes dans un registre un petit peu différent.
Oui, je pense que Philippe le Bon a eu à ses côtés une princesse qui était une femme d'État, c'est Isabelle de Portugal, à qui il a d'ailleurs confié par délégation de pouvoir des compétences politiques importantes. Isabelle de Portugal, sa troisième épouse, est une femme de tête et c'est une femme de caractère.
Oui, oui, Isabelle de Portugal, qui Isabelle sera d'ailleurs la mère de Charles le Téméraire.
La mère de Charles le Téméraire. Isabelle de Portugal est une femme qui tient sa place et il n'y avait pas finalement la place pour une favorite qui aurait éventuellement inspiré le prince. Isabelle de Portugal a certainement inspiré au moins la dévotion à la cour et la dévotion de son mari. Elle a eu une action politique, une action diplomatique. Et donc, elle avait sa place à la cour. On aurait difficilement pu imaginer une autre femme à ses côtés. Elle acceptait évidemment les débordements amoureux de son mari, mais pas la présence d'une rivale qui aurait été une illégitime, d'une maîtresse en titre.
Un des témoignages du rayonnement de la cour bourguignonne, c'est qu'à un certain moment, malgré tout, Charles VII, qui n'était pas un homme de face de l'ostentation, il était trop réservé, puis pendant très longtemps, il a manqué de moyens. Donc il y avait un déficit de moyens, un déficit de caractère, de volonté. C'était un homme en retrait, qui aimait bien la solitude, vivait un petit peu caché, etc. Mais à un certain moment, en tout cas, Charles VII a essayé de concurrencer la cour de Bourgogne. C'est en 1445 à Nancy. Et donc on voit très bien comment, c'était en dehors du royaume, mais il était accueilli par son beau-frère René, le roi René. Et donc on voit très bien comment les faces de la cour de Nancy, disons en 1444, en 1445 et puis un petit peu après en 1446, sont très pénétrées d'influence bourguignonne. Il y a des bourguignons, justement Jacques de Lalain qui apparaît, et on s'efforce à cette époque-là, avec les moyens du bord, de copier un petit peu les fastes de la cour bourguignonne.
Car c'était la plus belle cour de l'Europe. Est-ce qu'on peut prendre cette formule ?
On peut dire que c'est ce que les ducs de Bourgogne voulaient faire croire, en tout cas. Et certains...
Oui, moi je le crois volontiers.
Parce qu'elle avait l'air d'être vraiment unique.
Il n'y a rien d'équivalent, parce qu'à l'époque en Angleterre, Henri VI, non, c'est pas ça. C'est non, je ne vois pas. Alors, le Sigismond, et puis Frédéric III, il manquait de moyens, même les rois d'Espagne à l'époque, ce n'était pas ça. Bon, je crois qu'on peut dire qu'il y a une primauté bourguignonne, une primauté d'autant plus accentuée pour nous que nous avons des comptes, nous avons très nombreux documents, ça c'est quand même important, les historiens naturellement en raffolent et les ont exploités, et peut-être qu'il y a encore des choses à exploiter, et puis il y a des témoins qui subsistent assez nombreux. Toute cette peinture flamande gravite plus ou moins
les primitifs
autour.
Flamands.
Et voilà, ce qu'on appelait des primitifs flamands gravitent autour de la cour.
C'est certain. Il est vrai que dans ce que l'on sait des finances bourguignonnes, on constate que Philippe le Hardi et Philippe le Bon, son petit-fils, affectent à la vie de cour des sommes qui sont considérables. C'est le premier poste de dépense de l'État bourguignon, c'est la cour. Donc il y a un véritable effort qui est fait et les commandes princières font partie évidemment de cet ensemble de dépenses. Alors là, il y a au fond toutes les formes d'art qui sont représentées, en particulier effectivement la peinture sur bois, hein, la peinture de chevalet, je dirais, ou la peinture sur bois avec les commandes qui sont passées par exemple au peintre de la ville de Bruxelles qui est Rogier de la Pasture en français, ou Van der Weyden si vous préférez sa version flamande, ou alors un peintre comme Jan van Eyck ou Jan van Eyck si vous préférez, Jan van Eyck qui est retenu par Philippe le Bon comme son peintre et valet de chambre, donc qui est intégré à l'hôtel du duc, qui est intégré au service domestique qui entoure le duc et qui est fait peintre du duc. Et donc c'est un personnage à qui le duc passe des commandes, pas uniquement à lui, mais à ce personnage. Donc on a déploiement, effectivement, de toute une série de commandes artistiques qui visent à renforcer encore le prestige de la cour. Et je parlais de peinture, il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la peinture sur manuscrit, peinture sur parchemin pour illustrer les manuscrits, étant donné que le duc de Rohan, Philippe le Bon, a hérité d'une magnifique bibliothèque.
C'est un grand bibliophile.
C'est un bibliophile, ça, c'est un héritage. Philippe le Hardi, Jean Sans Peur étaient déjà des...
C'était familial.
Oui, c'était déjà des bibliophiles, mais lui a encore accru le nombre de volumes de la bibliothèque des ducs de Bourgogne. Il a fait des achats, il a aussi fait des commandes particulières et il fait travailler toute une série de peintres qui travaillent essentiellement pour lui et qui illustrent des manuscrits pour lui. Et alors, autour de lui, il y a des membres de la cour de Bourgogne. Par exemple, je pense à un chevalier de la Toison d'Or qui est Jean Seigneur de Créqui, qui est un bibliophile qui lui-même fait travailler des peintres. Et donc, on a non seulement le prince, mais autour de lui, toute une série de personnages. On sait aussi pour les Rollins. Hein, les Rollins aussi passé des commandes. La famille de Nicolas Rollin a aussi passé des commandes à des peintres de manuscrits pour avoir des manuscrits à peinture et donc avoir une bibliothèque magnifique.
On a un inventaire de la bibliothèque de Philippe le Bon en 1420, qui est déjà intéressant, mais c'est la bibliothèque qu'il a héritée de son père et de son grand-père. Beaucoup de ses œuvres, la majorité peut-être même, ont été conservées. Hein. Ils existent toujours à Bruxelles, notamment à Bruxelles, à la bibliothèque royale Albert Ier. Et puis on a également un inventaire de 1467, à l'issue par conséquent du principat de Philippe le Bon, qui montre bien, disons, l'accroissement des richesses de cette fameuse librairie, puisque c'est le terme qu'on employait à l'époque. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le classement de cette librairie selon les thèmes qui étaient considérés comme les thèmes qui s'imposaient pour toute bibliothèque aristocratique à cette époque.
Et quels étaient ces thèmes ?
Eh bien, parmi ces thèmes, il y avait la théologie, la morale, la didactique, l'histoire et l'histoire d'outre-mer. Et nous trouvons ici le thème de la croisade, thème de l'Orient qu'il ne faut pas oublier. Et puis, donc, c'est une bibliothèque qui est majoritairement en français, hein. Majoritairement en français, je pense qu'il savait le latin, mais enfin, il ne lisait pas couramment. On lui faisait la lecture, d'ailleurs, il lisait assez peu, mais enfin, il savait écrire et lire, naturellement. Mais donc, c'est vraiment, disons, le parangon de la culture aristocratique pour le XVe siècle. Il ne faut pas oublier non plus, parce qu'on n'a pas encore mentionné, qu'il avait un historiographe. Georges Chastelain, qui est un historiographe de très grand talent. Malheureusement, son œuvre a très mal survécu. Je suis toujours étonné de voir qu'il y a si peu d'exemplaires. Il y a eu un problème, je ne sais où se situe ce problème. Mais les fragments qu'on a de l'histoire de Georges Chastelain sont absolument fascinants et montrent justement l'importance de la cour pour l'historiographe, l'indiciaire, puisque c'est le nom qu'on lui a donné, de Philippe le Bon.
Il arrive un moment où, effectivement, le duc de Bourgogne veut avoir une histoire officielle, une chronique officielle, bourguignonne.
Prérogative tout à fait royale.
Oui, absolument, tout à fait. L'histoire s'est fait bourguignonne à cette époque-là, et c'est vraiment une œuvre fascinante que celle de Georges Chastelain, parce que non seulement il parle du duc, c'est une affaire entendue, il est au centre, mais il fait des comparaisons. Et en particulier, il y a une comparaison qu'il fait, qu'il mène entre Charles VII et Philippe le Bon. Il les soupèse, pour ainsi dire, l'un et l'autre. Et puis ensuite, il y a une comparaison entre Louis XI et Charles le Téméraire.
Alors, il y a un élément dont M. Contamine vient de parler, c'est effectivement la question de l'attrait de l'Orient, de la question de la croisade, qui est évidemment...
Parce que ça a duré chez eux.
Chez Philippe le Bon, c'est une idée qu'il a conservée pendant toute sa vie, cette idée de la croisade. Son père... Jean sans peur avait affronté les Turcs à la bataille de Nicopolis. Il avait connu la captivité, mais aussi la gloire d'avoir combattu, d'avoir vraiment fait cette démarche, hein, d'avoir mené l'entreprise. Hein. C'est ce que dit un autre historiographe bourguignon, Olivier de la Marche. Il dit, oui, le duc Jean, lui, il avait fait ce que tant de princes disent qu'ils vont faire, mais ne font pas. Donc lui, il l'avait fait. Et Philippe le Bon, très tôt aussi, montre son intérêt pour les entreprises lointaines, pour la croisade. Puisque, au fond, il envoie des personnages qui sont des voyageurs, des espions. Hein. Quelqu'un comme un chevalier flamand, Gilbert de Lannoy, qui va faire un grand voyage dans la Méditerranée orientale. Il va en Terre Sainte, il va en Égypte, pour repérer les endroits où, éventuellement, on pourrait mener une armée. Ça, c'est en 1421, donc c'est très tôt. C'est très tôt. Et ce goût pour la croisade, dans les années 1420, fait penser, montre que Philippe le Bon a très tôt cette volonté de mener une entreprise lointaine. Alors, à un moment donné, c'était très à la mode, c'est 1428-29, c'était une croisade contre les Hussites, en Bohême. Alors ça, il y a pensé. Son goût pour la croisade est tellement connu que, je me tourne vers M. Contamine, Jeanne d'Arc, quand elle lui écrit de Reims, lui dit, mais si vous voulez combattre, plutôt de combattre le roi de France, allez donc sur les Sarrasins, n'est-ce pas? Allez donc sur les Sarrasins. Donc elle lui dit, bon, si vous voulez tellement...
Elle était bien renseignée.
Oui, elle connaissait le goût du duc pour la croisade. Alors bon, évidemment, les affaires de France... L'expansion territoriale bourguignonne sont des affaires qui l'ont beaucoup occupé, mais c'est un prince qui est tourné vers cet objectif de la croisade. Il s'intéresse à la mer, il s'intéresse aux expéditions navales. Il ne faut pas oublier aussi une chose qui commence à devenir vraiment préoccupante dans les années 1440, c'est l'avance des Turcs en Europe centrale, dans l'Europe balkanique.
Oui.
L'Europe occidentale commence à trembler devant l'avancée des Turcs. Parce qu'on n'a pas réussi à les arrêter à Nicopolis, et ils ont continué d'avancer. Et ils occupent la totalité des Balkans. Et finalement, ils menacent des royaumes d'Europe centrale, et finalement, ils menacent aussi l'Adriatique. À partir du moment où ils menacent l'Adriatique, ils menacent l'Italie, ils menacent la papauté. Et donc, le duc de Bourgogne, comme beaucoup de princes de son temps, est sensible à cette menace.
Philippe Le Bon était tourné à la fois vers l'Occident, vers l'Angleterre, vers la France et au-delà, vers le Portugal par son épouse, mais également vers l'Europe centrale, vers l'Empire. C'était un prince d'Empire aussi. Oui. Et donc il y a une fameuse diète de Ratisbonne où Philippe Le Bon apparaît, ou bien voilà, pour oui. justement essayer de repousser le Grand Turc. Donc c'est une dimension importante du personnage, en soi peut-être, et puis également pour être le champion de la chrétienté.
Oui. Cette diète de Ratisbonne, elle prend place juste après le banquet du faisan. Alors, si vous voulez, le banquet du faisan, alors bon, certains historiens, c'est le cas de Johann Huizinga, ont considéré que c'était une espèce de foire absolument invraisemblable et incompréhensible. En réalité, le duc a, c'est vrai, voulu qu'on organise une fête totalement extravagante, d'un luxe inouï, de manière à frapper les esprits, à créer un impact que je dirais aujourd'hui médiatique, si vous voulez, parce qu'au cœur de la fête, il fait vœu de croisade. Donc il fallait qu'il y ait un retentissement considérable. Et je dois dire qu'il a bien réussi, parce que le vœu du faisan a été un événement qui a stupéfié tout le monde. Il y a eu des relations de cette fête qui ont été rédigées, qui ont été diffusées. Il y a un effort qui est fait pour montrer à quel point cette fête était somptueuse. Et en fait, au cœur de la fête, il y a cet événement essentiel, c'est que le duc veut partir en croisade. Alors il se trouve que bon, ce vœu de croisade ne sera pas suivi des faits, parce que après 1454, eh bien, les choses vont aller dans une direction qui n'est pas exactement celle que le duc avait prévue.
On peut même employer le pluriel, les vœux du faisan, parce que le duc a été le premier à prêter un vœu, n'est-ce pas? Un vœu, c'est quand même un caractère religieux, très fort. Donc, ça peut un peu bizarre, prêter un vœu sur un animal. Mais enfin, c'était, il y a le vœu du héron, c'était un petit peu un jeu c'était à l'époque, mais c'était, il y avait un côté religieux. Et puis, une grande partie de sa noblesse, bon gré mal gré, a suivi son modèle. Donc, c'est une dimension très importante. Donc, je crois que pour Philippe Le Bon, il y avait la croisade, il y avait l'Orient, il y avait l'Outre-mer. Et donc, tout cela était un petit peu mélangé et avec cette volonté chez lui, je crois, disons, de prendre en quelque sorte, alors qu'il n'est pas le premier, la tête de la chrétienté. Il y avait peut-être une volonté de compensation puisqu'il n'était pas le roi. Après tout, la croisade serait dû être le roi de France. Ça aurait dû être Charles VII qui l'amène, mais Charles VII, il a été un petit peu sollicité, il a écarté cette possibilité sans hésiter. Et donc, du même coup, il y avait une sorte de carence, et Philippe Le Bon, en quelque sorte, s'est engouffré dans cette brèche pour assurer son renom, et peut-être aussi parce qu'il s'imaginait que la chose était possible, on ne sait pas. Ces grands princes avaient plusieurs idées à la fois, ils poursuivaient plusieurs buts, peut-être plusieurs chimères.
Et Bertrand Schnerbre, la fin du Principat. Ce qui va nous amener à Charles le Téméraire. Comment est-ce que Philippe le Bon arrive à juguler ces, on va dire, 12 ans entre 55 et 67?
Le duc a continué de présenter l'image d'un prince puissant. Il avançait en âge, mais il était encore assez, physiquement, il n'était pas diminué. Il a toute une série d'entreprises face à lui qu'il doit mener. Les tensions avec la cour de France ne sont pas négligeables. Il ne faut pas oublier qu'en 1456, il y a un visiteur qui arrive à la cour de France, pas en très bonne forme, mais un visiteur qui est accueilli avec beaucoup d'égards, c'est le dauphin Louis, le futur Louis XI, qui s'est querellé avec...
Qui apparaît à la cour de Bourgogne.
Qui apparaît à la cour de Bourgogne, et qui, ma foi, s'est querellé avec son père, le roi Charles VII. Et donc, le futur roi Louis XI s'exile, n'est-ce pas, et vient se réfugier à la cour du duc de Bourgogne, qui l'installe en Brabant, donc en terre d'Empire, loin de la fureur de son père Charles VII, qui est absolument scandalisé par le fait que le dauphin aille se réfugier chez le duc de Bourgogne. Donc, il y a ensuite, pendant des années, ce contentieux entre la cour de France et la cour de Bourgogne, le fait que le duc de Bourgogne donne asile au dauphin qui s'est rebellé contre son père.
C'est Philippe le Bon qui reçoit le futur Louis XI.
Oui.
Donc, tension.
Tension avec la cour de France. Tension aussi, pour d'autres raisons, à propos de la succession de Luxembourg. Il y a aussi eh bien, des tensions à l'intérieur de la cour de Bourgogne. Jusque-là, ça n'était jamais arrivé. Jean Sempere et Philippe le Hardi s'étaient toujours très bien entendus, le père et le fils. Philippe le Hardi avait d'excellentes relations avec Jean, son fils, et Jean, je vous l'avais dit, je crois, était en admiration devant son père et voulait absolument continuer l'œuvre de son père. Philippe le Bon s'est bien entendu avec son père Jean Sempere. Jean Sempere lui a donné des compétences, des attributions politiques, et Philippe et Jean Sempere se sont bien entendus, le père et le fils se sont bien entendus. Là, on a, je dirais, un conflit générationnel entre Philippe le Bon et son fils Charles, comte de Charolais, alors le futur duc Charles le Téméraire. Il y a des querelles à l'intérieur, une lutte d'influence entre des clans à l'intérieur de la cour de Bourgogne. C'est assez... Bon, il y avait déjà eu des tensions à la cour de Bourgogne, mais là, ce sont des tensions extrêmement fortes entre deux clans, en gros, celui du comte de Charolais, soutenu d'ailleurs par Rollin, par Nicolas Rollin, le chancelier, et de l'autre côté, un clan qui est organisé autour de la plus puissante famille de la cour de Bourgogne, c'est la famille des Croyes. Voilà, c'est ça. Ça va empoisonner la fin du principat de Philippe le Bon parce qu'on va avoir de façon récurrente des éclats, des querelles extrêmement vives entre le comte de Charolais et Philippe le Bon. Le comte de Charolais aussi s'efforçant finalement d'obtenir une part du pouvoir. Il est impatient de prendre le pouvoir, d'autant que la politique de Philippe le Bon sur la fin du principat lui semble trop favorable aux intérêts du roi de France, et notamment c'est en 1463 la cession par Philippe le Bon au roi de France Louis XI, des villes de la Somme, donc la Picardie qui avait été cédée lors du traité d'Arras.
Je pense que même s'il y avait des bruits de guerre, des bruits de bottes à la fin du règne de Charles VII, je pense que Charles VII n'était quand même pas disposé à lancer ses troupes, ses compagnies d'ordonnance contre le duc de Bourgogne. Il savait qu'il fallait pas aller trop loin, parce que c'était un vieux monsieur, etc. Donc il y avait quand même une certaine prudence, même si les discours, les bruits, les rumeurs pouvaient circuler. Et puis ensuite, il y a l'avènement de Louis XI, exilé, qui revient en France dans les fourgons du duc de Bourgogne. Et donc le duc de Bourgogne se dit, j'ai fait un premier roi Charles VII en 1435, j'ai fait un second en 1461. Et donc il imagine à un certain moment devenir, disons, le protecteur du nouveau roi Louis XI. Là, il se trompait sur toute la ligne. Il n'avait peut-être pas mesuré
le personnage de Louis XI.
Tout de suite, il y a ce rachat des villes de la Somme qui met le feu aux poudres. Et donc là, il est obligé de réagir. Il est plus ou moins obligé de réagir, surtout qu'il y a des problèmes intérieurs propres à la royauté française. Louis XI a multiplié les faux pas et les maladresses au début de son règne, peut-être à la fin aussi, mais enfin, en tout cas au début de son règne. Et donc, du même coup, il y a cette réaction, ce qu'on appelle la ligue du bien public, la guerre du bien public, qui, le duc de Bourgogne délègue son fils, le comte de Charolais, et il y a cette grande bataille, la bataille de Montlhéry, en juillet 1465, qui est, somme toute, une aux trois quarts ou aux deux tiers, une victoire bourguignonne. Et puis ensuite, il y a le siège de Paris qui échoue, c'est vrai, mais Louis XI est obligé de multiplier les concessions extrêmement douloureuses et d'abandonner, justement, ces villes de la Somme. Si bien que, en un sens, vis-à-vis du roi de France, lorsque Philippe le Bon meurt en 1467, il est quand même le grand victorieux, le
oui.
grand vainqueur.
Bon, progressivement, c'est vrai que le pouvoir passe à son fils, et que lorsque Philippe le Bon meurt, il est mort vivement d'une maladie infectieuse, probablement d'une pneumonie, donc il n'a pas été vraiment diminué, mais au moment où il meurt, pratiquement, c'est son fils, le comte de Charolais, qui, en tant que lieutenant général, assume véritablement le pouvoir au sein de l'État bourguignon.
Merci, messieurs.
C'est une, on peut dire, du règne du principat de Philippe le Bon, c'est une success story.
Mais il y avait déjà une success story, d'après vous, avec Philippe le Hardy. La prochaine fois, ça ne sera pas une success story. C'est bien triste pour Charles Téméraire. Au revoir, messieurs, merci.
Au revoir.